Shalom, bonjour tout le monde. On m'a fait savoir que vous étiez intéressé à une étude sur le bouddhisme, c'est ça? C'est-à-dire que vous considérez que l'étude à la yeshiva est inintéressante, que la Torah y en a assez, et qu'il faut transformer ça en centre de synthèse des religions universelles. Bon, d'accord. Alors vous avez donc parlé du bouddhisme et de la spiritualité orientale dans son ensemble. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il est important de restituer le bouddhisme dans son contexte historique. Comment est-ce que c'est né? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça devient? Et puis voilà. Bon, d'abord mettons les choses un peu au clair du point de vue de l'histoire humaine. Je crois que nous en avons parlé dans les cours sur Bereshit, mais il serait intéressant d'en reparler. Quand on étudie l'histoire des hommes, l'histoire des pensées, des civilisations, on ne peut pas ne pas être frappé par un fait extrêmement clair. Il y a deux ères, A-I-R-E-S, de civilisations dans le monde, l'Occident et l'Orient. En gros, hein, c'est quoi l'Occident, dans le sens très large du terme? Il s'agit de tout ce qui se situe géographiquement, depuis le Punjab jusqu'à l'Atlantique. Où c'est le Punjab? Le Punjab, c'est un désert qui se trouve à la frontière du Pakistan et de l'Inde. Entre le Pakistan et l'Inde, il y a un petit désert qu'on appelle le Punjab, ou le Punjab, ça dépend. D'ailleurs, qui donne sa lettre P au Pakistan. C'est-à-dire le Pakistan, c'est-à-dire que le mot Pakistan, c'est un ensemble, c'est plusieurs petits pays à la fois, et le P de Pakistan, ça vient de Punjab. Il y a donc, entre l'Inde et le Pakistan, il y a un petit désert qu'on appelle le Punjab. Pourquoi c'est tellement important? Parce que ce désert est un obstacle naturel qui empêche le rapport entre les pays. Il y a également un fleuve qu'on appelle l'Indus, qui sépare aussi. Et puis si vous arrivez un peu plus au nord, vous arrivez à des montagnes extrêmement élevées, le Cachemire, le Pamir, qu'on appelle le toit du monde. Et puis si vous arrivez à dépasser ces montagnes vers le nord, alors vous tombez sur une steppe inhabitable, qu'on appelle la Sibérie, enfin le Kazakhstan et après la Sibérie. Et donc il y a une sorte de coupure qui coupe en deux l'Asie, qui fait que, historiquement parlant, tous les peuples qui se trouvaient à l'occident du Punjab étaient dans un même cercle. C'est-à-dire, il y a toujours des relations entre la Perse, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure et l'Europe, jusqu'à l'Atlantique. Tout ça forme un seul domaine, si vous voulez, bien qu'il y a eu là-bas une variété très importante de peuples, de civilisation, mais tout cela finalement était en contact. Et puis, si vous allez à l'est de tout ça, alors vous tombez sur l'Inde, la Chine, l'Indochine et le Japon, et la Corée. Tout ça forme une autre ère de civilisation qu'on appelle la civilisation extrême orientale. L'Inde se situe un peu comme quelque chose d'intermédiaire entre les deux, mais on peut dire que les peuples qui se trouvent à l'Orient ne connaissaient presque rien des peuples de l'Occident, et les peuples de l'Occident ne connaissaient presque rien des peuples de l'Orient pendant des milliers d'années, n'est-ce pas? Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a divisé son monde de cette manière? Là, c'est la première question. La deuxième question qui va nous préoccuper, c'est: où sont les Juifs dans tout ça? Les Juifs se trouvent, comme par hasard, dans la partie occidentale. C'est-à-dire, si vous écrivez un livre d'histoire juive, dans lequel vous omettez de mentionner qu'il y a eu des Juifs en Pologne, ou bien vous oubliez d'écrire qu'il y a eu des Juifs en Irak, à Babylone, alors vous êtes un mauvais écrivain, mauvais historien. Mais si vous oubliez de signaler qu'il y a eu des communautés juives en Inde, en Chine, au Japon, c'est vrai que le livre n'est pas complet, mais il n'est pas si mauvais que ça. Parce que, dans l'histoire juive, les communautés juives de Chine, par exemple, ont joué un rôle extrêmement faible. pourrait dire, négligeable. N'est-ce pas? Et donc, la question qui se pose, si effectivement le peuple juif, c'est un peuple tellement important et que Dieu l'a choisi, et qu'il l'a choisi entre autres pour être une bénédiction pour toute l'humanité, par toi seront bénies les familles de la terre, dit Akadosh Baruch Hu Abraham, comment se fait-il que l'ère d'action, le domaine de l'action des enfants d'Israël, a été dans l'histoire essentiellement la partie occidentale et non pas la partie extrême-orientale? D'accord? Ça, c'est une deuxième question qui se pose. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils disent, les extrêmes-orientaux? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut le savoir. Quatrièmement, qu'est-ce que ça peut nous faire? D'accord? Bon, ce sont quatre questions extrêmement importantes et lourdes de contenu que nous allons essayer d'aborder plus ou moins rapidement parce que nous n'avons pas énormément de temps. Bon. Alors tout d'abord, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre l'Occident et l'Orient. Alors, c'est comme si je vous disais, quelle est la différence entre Vénus et Mars? Il y a des milliers de différences. Mais est-ce qu'il y aurait une intuition fondamentale qui ferait la différence quand même? Qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui est, disons, symptomatique d'une réflexion ou d'un mode de vie occidental? Et qu'est-ce qui est particulier à quelque chose d'oriental? Eh bien, c'est la différence entre le temps et l'espace. On pourrait dire comme cela. Il y a une idée qui se trouve un peu partout dans tous les domaines de la civilisation occidentale, c'est l'idée de progrès. Et on se dit que le monde doit se transformer. Imaginez, par exemple, vous découvrez une nouvelle force physique. Que va faire l'occidental? Il se dit, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Nous allons transformer le monde avec ça. Je découvre l'électricité. Eh bien, nous allons faire des machines. Avec l'électricité, nous allons pouvoir faire des trains, des avions. Et donc, même peut-être envoyer des vaisseaux dans l'espace. C'est ça que pense l'occidental. Nous allons changer le monde. L'oriental, s'il découvre quelque chose de nouveau, ne pense pas qu'il doit changer le monde. L'idéal, c'est la fixité. Tu vas transformer le monde, qui te dit que c'est bien? Peut-être que le monde que tu vas créé sera moins bon que l'actuel. Et donc, il faut chercher le bonheur, non pas dans le changement, mais en soi, intérieurement. Voilà, c'est ça la pensée orientale. La différence entre l'espace et le temps, entre le fixe et le mouvant. J'espère ne pas avoir été trop schématique. Je suis trop schématique, il n'y a pas à faire. Mais enfin, ça veut quand même dire quelque chose. Et la Torah nous parle effectivement de cette division de l'humanité avec très peu de mots, mais c'est l'essentiel. Dans le livre 11, non, pardon, dans le chapitre 11 de Bereshit, au verset numéro 2, vous vous rappelez? Ben oui. C'est quoi le verset numéro 1 d'abord? Vayi kol haaretz safahat udvarim machadim. Toute la terre était faite d'un seul langage et parler des mêmes paroles. Donc, la terre tout entière est habitée. Toute sauf un petit village. En tout cas, la terre tout entière est habitée. Et et parle à peu près des mêmes choses. Et puis arrive le deuxième verset qui nous dit « Vayehi benos'am mikedem » Ce fut lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient. Ça veut dire quoi que ils ont voyagé qui? Toute la Terre? Non. Une partie de l'humanité a décidé de se séparer de l'Orient. Si c'est pour se séparer de l'Orient, donc où est-ce qu'ils ont été? En Occident. Ils vont, pour fonder la tour de Babel, donc ils viennent de l'Orient, de la Perse, des montagnes de l'Orient, et ils se dirigent vers l'Occident. La première station, ils arrivent à Babylone, ils font là-bas la tour de Babylone. Le fait de voyager, ça signifie quoi? Pourquoi est-ce qu'on voyage? Parce qu'on n'est pas satisfait de là où on est et qu'on pense trouver mieux ailleurs. D'accord? C'est-à-dire, l'idée de progrès est intrinsèque à l'idée de voyage. Et donc, ils y vont. Ils arrivent à Babylone et ils font la tour de Babel. Et c'est quoi la tour de Babel? C'est une révolte. L'auteur de la tour, selon la tradition, n'est autre que le roi Nimrod, qui veut dire... Ça veut dire quoi, Nimrod ? Révoltons-nous. D'accord ? C'est la révolte. Et on peut dire que l'idée de Nimrod, on a étudié ça, je crois, dans le livre de Bereshit, c'était que l'état du monde est mauvais. Et donc, il se demande, mais qui est le responsable ? Il dit, si l'état du monde est mauvais, si ça va mal dans le monde, le responsable, c'est le créateur du monde. Et donc, la solution, c'est de se révolter contre lui, et tout ira mieux. Ça, c'est le projet de Nimrod. Sur l'arrière-plan de cette révolte de Nimrod, apparaît le personnage d'Abraham, Abraham Avinu, qui, lui, va se révolter contre le révolté, pour rétablir la royauté du Créateur du monde, parce que le diagnostic d'Abraham est le diagnostic inverse. Il se dit, ça va mal dans le monde, parce qu'on a oublié le Créateur du monde. Et donc, il va fonder une nouvelle identité, celle d'Israël, qui va réparer la révolte de la partie occidentale du monde. Alors ça commence à nous donner un début de compréhension. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël apparaît, agit essentiellement dans l'ère occidentale ? Parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui justifie l'action d'Abraham. Jusque-là, vous me suivez ? Mais dans ce cas-là, c'est extrêmement grave, ce que je vous dis là. Et alors, la partie orientale, on n'en a rien à faire ? On est indifférent ?
Mais vous dites que c'est le progrès, l'Occident, et que là-bas, il n'y a pas de progrès. C'est le progrès qui a fait qu'il y ait une révolte.
Oui.
Donc, si là-bas, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas besoin d'agir.
Alors, tu dis qu'en Occident, en Orient, il n'y a pas de révolte, donc pas besoin d'agir. Alors, tout va bien en Orient, du point de vue de la Torah ? N'y aurait-il pas un autre péché que celui de la révolte ? Oui, il y en a un autre, mais il est antérieur. C'est le péché de l'oubli. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la génération de Enoch. Enoch, ça veut dire quoi ? J'oublie. Est-ce qu'il y a ici parmi vous quelqu'un qui a une grand-mère qui parle le judéo-arabe ? Certainement. Comment est-ce qu'on dit « j'ai oublié » ? En arabe. Inchit.
Inchit.
Donc ça vient de... Ça, oui, c'est identique au mot hébreu nasha, qui veut dire oublier. J'ai oublié, ménaché, le fils de l'oubli, etc. D'accord ? Donc il y a, dans l'Orient, un péché antérieur au péché de la tour de Babel, qui est celui de l'oubli de l'origine. Effectivement, dans tous les mythes orientaux, on voit cette idée que le monde a été possible par un effacement de l'infini d'origine. Si vous voulez, c'est comme si c'était la mort du Créateur qui permettait l'apparition de l'être. À partir du néant apparaît l'être. Oui, mais ça, c'est, quand je dis infini, c'est une déviation judaïsante. D'accord ? Non, bien sûr, bien sûr. Bien qu'il y ait ce qu'on appelle l'indéfini chez eux. Et donc, il y aurait une origine qui aurait été oubliée, et cet oubli fait que l'être de la créature peut apparaître. Et donc, ce n'est pas aussi grave que la révolte, mais ça demande également à être réparé. Et donc, le peuple d'Israël a un rôle également par rapport à ça. Mais, comme on dit, il faut parer au plus pressé. C'est-à-dire, pendant 4000 ans, nous nous sommes promenés un peu partout dans le monde occidental pour réparer ça. Nous avons réparé, nous sommes revenus sur notre terre, et maintenant commence le travail, le deuxième volet qui s'occupe de l'Orient. D'où la fascination actuelle qu'il y a dans le monde occidental pour l'Orient. C'est extrêmement frappant. On voit que pendant presque un siècle, l'Occident a colonisé l'Orient. C'est-à-dire les Français, les Anglais, les Hollandais, ils étaient là-bas. Et ils se sont totalement désintéressés de ce que les Orientaux avaient à dire. Parce qu'il y avait un sentiment de supériorité tel du point de vue de la civilisation occidentale que pour eux, les indigènes, natives, ne représentaient rien. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Occident et de l'Empire colonial qu'il y a un sentiment de vide qui remplit maintenant la civilisation occidentale, il y a donc une fascination de l'Orient. Et alors, tout jeune un peu paumé en Occident, c'est à peu près donc tous les jeunes, s'intéressent à ce qui se passe là-bas. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Il y a de la mystique, etc. C'est extraordinaire, il y a des choses. Et alors, on cherche à se remplir là, avec ce qu'il y a en Orient. Et ça correspond au moment de l'histoire où Israël revient sur sa terre. Et donc, nous avons également quelque chose à faire par rapport à l'Orient. C'est pour ça que dans le cursus normal de tout jeune Israélien bien né, de bonne famille, il y a à l'âge de 18 ans, on va à l'armée. On devient même parfois officier. Et puis après, on part en Extrême-Orient, en Thaïlande, au Japon, un peu partout. Et puis, on y va pour quelques mois. Et après, on revient pour le premier semestre de l'université. D'accord ? Ça fait partie donc du circuit normal du bon Israélien qui sent qu'il doit partir en Orient. Alors on peut dire, oh là là, mais c'est terrible, les jeunes vont à la perdition. Ou bien on peut se dire, non, c'est, si vous voulez, les hirondelles. Ce sont les éclaireurs, les avant-coureurs de l'action d'Israël sur l'Orient. Effectivement, il y a un dialogue qui doit s'instaurer. Nous avons quelque chose à leur dire. Ils ont peut-être quelque chose également à nous dire. On peut dire que, de même qu'il y a eu une sorte de relation extrêmement suivie entre Israël et la philosophie occidentale, dont un des fruits, c'est le guide des égarés de Maïmonide, eh bien, une sorte de guide des égarés de ce genre doit être un jour établi entre Israël et la partie orientale du monde. Une fois que ça sera réalisé, on pourra dire qu'on aura fait quelque chose dans l'histoire. C'est ce que dit le prophète Isaïe, en hébreu, Yeshayahu, au chapitre 59, au verset 19. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui? Chapitre 59 de Yeshayahu, au verset 19. Que dit-il? Je vais le rappeler à moi-même, parce que vous le savez, mais je vais le rappeler à moi. Veillirehu mi ma'ara vechem Hashem. C'est lorsque l'on craindra en Occident le nom de Dieu, ou mi mizrah shemesh et kevodo, et en Orient sa gloire, ki yavo kanahar tsar wa Hashem nosesabo, car viendra comme un fleuve l'oppresseur, l'Esprit de Dieu scintillera en lui, ou va les Tzion Goel, que viendra à Tzion un sauveur. C'est-à-dire que dans le projet du prophète, d'abord il y a deux messages différents. Il y a ce qu'on attend de l'Orient, ce qu'on attend de l'Occident. De l'Occident, on attend de connaître le nom de Dieu. C'est-à-dire le nom, parce qu'il y a une révolte contre le nom de Dieu, donc il faut que le nom de Dieu soit craint. Veillirehu et Shem Hashem. Mais en Occident, ce qu'on ne connaît pas, c'est la gloire de Dieu, puisqu'il a été oublié. Donc il y a le Shem et le Kavod, le nom et la gloire. Quand nous, les enfants d'Israël, nous proclamons l'unité du Créateur, nous disons Hashem Eloheinu Hashem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, et qu'est-ce qu'on ajoute après? Baruch, Shem Kevod, que soit source de bénédiction, son nom et sa gloire. Malchuto Leolam Vaed, qui est sa royauté pour l'éternité. C'est-à-dire que le peuple juif est susceptible de faire cette synthèse des différentes consciences religieuses, et donc nous avons quelque chose à leur faire savoir au niveau du Kavod. Il y a un livre intéressant qu'on appelle le Tao Te Ching. Vous connaissez le Tao Te Ching? Ou Tao Te King, peu importe. Écrit par Lao, enfin attribué à Lao Tse. Vous ne connaissez pas Lao Tse? Comment? Il va vous montrer la voie. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas le lotus bleu de Tintin? Bon. C'est Lao Tse qui l'a dit. Il faut vous montrer la voie. En tout cas. La voix, ça se dit en chinois Dao ou Tao. Et donc, dans le livre fondamental du taoïsme, le Tao Te King, il est dit le Tao qui porte un nom n'est pas le vrai Tao. Celui qui n'a pas de nom est l'origine d'une multitude d'êtres. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça nous rappelle un peu comment? Ils ne connaissent pas le nom. C'est-à-dire, ils savent que le Créateur n'a pas de nom, et donc ils refusent de lui donner un nom. Mais on voit que, par exemple, quand Moshe Rabbeinu s'entretient avec Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent, alors Dieu lui dit, voilà, je suis le Dieu de tes ancêtres, il faut absolument que tu ailles faire sortir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte, c'est très important. Et alors Moshe dit, oui, mais je ne connais pas ton nom. Qu'est-ce que je leur dirai aux enfants d'Israël? Question idiote, a priori. Moshe aurait pu inventer n'importe quoi. Il aurait pu dire, par exemple, Dieu, ou bien Chipopo, ou n'importe quoi. Théos. Il aurait pu inventer un nom. Mais il sait que chez les enfants d'Israël, ne pas connaître le nom, c'est ne pas connaître le Créateur. Donc, on peut dire qu'il y a, dans l'Occident, dans l'Orient, pardon, il y a cette pudeur par rapport à l'essence de Dieu, mais l'incapacité de savoir son nom. Or, le nom, comment on dit un nom en hébreu, vous dites?
Shem.
Shem. Comment?
Shem aussi.
Non, Shem. Shem, le nom se dit Shem, n'est-ce pas? Le mot Shem en hébreu, c'est fini là? Bon, le mot Shem en hébreu a deux significations. L'une, c'est nom, N-O-M. La deuxième signification du mot Shem, c'est but. Dans quel but? On dit en hébreu, les Shem Ma. C'est-à-dire, connaître un nom, c'est connaître une finalité. Or, ce qui n'existe pas en Orient, c'est l'idée qu'il y a un but. Il y a une spiritualité, mais cette spiritualité n'a pas d'orientation.
Elle
n'est pas orientée. Comment?
Elle est intérieure.
Oui, elle est intérieure.
Elle est individuelle. Il faut être bien avec soi-même.
Peut-être qu'elle est avec soi-même. Mais disons que moi, soi-même aussi, mon moi, n'a pas également de finalité. J'arrive à un équilibre, il n'y a pas de direction. Oui.
Il y a beaucoup de monde qui sont en accrochement.
Alors, il y a beaucoup de noms d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y a différentes finalités, effectivement, qui se traduisent comme les dérivés d'une seule grande finalité qui se traduit dans le nom Yud Kei Vav Kei. D'accord? Alors ça, c'est toute la science de la Kabbalah, c'est justement d'étudier ces noms. D'accord? Bon, alors jusque-là, je pense que c'est assez clair. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Parlons, vous avez demandé qu'on vous parle du bouddhisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en Orient, il y a énormément de choses. Il y a le jaïnisme, il y a le bouddhisme, il y a le taoïsme, le shintoïsme, le zen. Des tas de choses de ce genre, n'est-ce pas? Mais si ce qui vous intéresse, c'est le bouddhisme, alors nous allons essayer d'être un peu plus précis. Le bouddhisme est apparu, où ça? En Inde. C'est apparu en Inde. Aujourd'hui, l'Inde n'est plus bouddhiste. Aujourd'hui, le bouddhisme se trouve en Chine, en Indochine, au Japon, en France, à Ceylan. Mais le pays hindou qui a été le lieu de naissance du bouddhisme n'est plus bouddhiste aujourd'hui. En tout cas, le fondateur était un certain Siddhartha Gautama, qu'on appelle également le Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Il est éveillé, c'est-à-dire qu'il a eu un moment une illumination, il a compris la vérité du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il est apparu? Qu'est-ce qu'il avait à dire? Il est apparu dans une société qui était décadente, de son point de vue. C'était la société hindouiste. C'est quoi l'hindouisme? L'hindouisme, c'est de la Avodazara classique. Simplement, ce que vous trouvez, par exemple, dans la Torah sur les Cananéens, une multitude de dieux, des sacrifices humains, des sacrifices de fleurs, des tas d'aberrations, etc. Tout ça, ben, ça se trouvait dans le monde entier. Et l'hindouisme était la manière hindoue de faire de l'Avodazara. Tout bête, hein? Tout simple. Bon. Et puis, le Bouddha, il s'est dit, mais ça ne va pas du tout. Il s'est dit, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe là. Le monde tombe dans le mal. Et donc, si vous voulez, le bouddhisme est tout d'abord une révolte morale contre l'état de la société. Il a tenté des tas de choses, il a tenté la débauche, entre autres, il a tenté des tas de trucs, et puis il a tenté également l'ascétisme, vivre comme un moine, sans rien manger, etc., dans la solitude. Il a essayé des tas de choses. Et puis un jour, il est arrivé à l'éveil, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Bouddha, et alors il a compris. Alors qu'est-ce qu'il a compris? Mais il a compris que le monde était mauvais. C'est-à-dire, l'intuition fondamentale du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la déception, dans leur langage, le dukkha. C'est-à-dire, le monde, ça ressemble à certaines choses qu'on trouve dans le judaïsme également, parce que dans le judaïsme, il y a une insatisfaction. C'est-à-dire, la Torah nous enseigne à ne pas être satisfait de l'état actuel du monde et de vouloir le transformer. Dans le bouddhisme, c'est beaucoup plus violent que ça, l'état du monde est irréparable. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de messianisme, le monde doit être abandonné. Et le seul espoir, c'est de se libérer de la prison de l'être. C'est le fait d'être qui est un malheur. Tant que je suis, tant que j'ai la conscience du moi, je ne peux être que malheureux. Donc il faut arriver à la connaissance qui est faire disparaître l'illusion du moi. D'accord ?
Le suicide.
Alors, pourquoi pas le suicide ? Mais le problème, c'est que si je me suicide, je n'ai tué que mon corps. Et mon esprit, non seulement il ne disparaît pas, mais il va se réincarner. Il va se réincarner en pire. Il pourra même se réincarner dans des tigres, dans des taupes, dans des arbres. C'est-à-dire l'enchaînement des réincarnations ne va pas cesser. Il y a chez eux une idée terrible qu'on appelle le karma. C'est quoi le karma ? C'est une chaîne ininterrompue et disons qu'on ne peut presque pas briser, des réincarnations au cours des temps. C'est-à-dire, je porte en moi non seulement mes problèmes de ma vie actuelle, mais je porte avec moi les problèmes de toutes les vies antérieures, de tous les mondes antérieurs. Et ça ne fait que s'accumuler.
Dans le judaïsme, il y a un retour de l'âme aussi.
Il y a également dans la Torah cette idée de la réincarnation. Mais je parle ici de la réincarnation comme elle est comprise en Inde. Elle est comprise comme une sorte de malédiction qui fait qu'on ne cesse d'accumuler les scories des mondes antérieurs. Et donc l'homme est dans une, comme une sorte de prison. Et cette prison fait qu'il devient de plus en plus mauvais. Alors ce que propose le Bouddha pour s'en sortir, c'est de disparaître. Mais disparaître, sérieusement, pas en se suicidant, se suicider c'est ridicule. Il faut une sorte d'affinement de l'être qui fait que petit à petit on meurt. Mais cette disparition se fait non seulement pas comme par exemple dans le christianisme où l'idéal c'est le olam haba, une âme sans corps. Pour le bouddhisme, c'est un monde sans âme. C'est-à-dire le nirvana absolu, c'est l'inclusion de l'être dans l'infini, non, pardon, pas dans l'infini, dans le néant, dans le vide. C'est-à-dire, si vous voulez, le bouddhisme, de ce point de vue-là, en tout cas, l'option centrale du bouddhisme, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a le néant, et dans ce néant, tout s'engloutit, et c'est là le bonheur. Quand j'ai enfin compris que je n'existais pas, que je n'ai pas de moi. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la connaissance. L'ignorance, c'est de croire que j'ai un moi. Quand j'arrive à la connaissance de l'absence du moi, c'est alors que je suis enfin arrivé à la véritable connaissance. C'est ça que le Bouddha a compris lors de son éveil, et qu'il a enseigné à ses disciples, et qui après a donné le bouddhisme, qui a pris plusieurs formes, le grand véhicule, le petit véhicule, tous ces machins-là. Oui.
En fait, ce qui parle par rapport au karma, c'est une sorte de code génétique spirituel qui est...
Le karma, oui. Une sorte de code génétique spirituel, effectivement, c'est ça. D'ailleurs, par exemple, ça se traduit dans l'hindouisme par les castes. C'est-à-dire les castes, vous savez que la société hindoue est divisée en castes, donc on ne peut pas sortir. C'est l'hérédité. Il y a une sorte d'hérédité spirituelle à laquelle on ne peut rien. D'accord ?
Ils n'ont pas d'idée de qu'ils sont capables de préparer ou d'avancer ?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, il y a effectivement cette conscience morale de ce qu'il y a de mauvais dans le monde, mais la solution, c'est de fuir. D'ailleurs, comme disait un de leurs sages, il vaut mieux être assis que debout, allongé qu'assis, mort que vivant. Alors, on peut effectivement toujours trouver des parallèles. Par exemple, dans le judaïsme, on dira « Noir lola adam shelo nivra mi shenivra ». Il est plus facile pour l'homme de ne pas être créé que créé. Oui, mais après, il y a une suite dans la Gemara. Une fois qu'il est créé, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit s'améliorer. Il fâche plèche de main à sable, etc. Bon, alors, mais ce que je veux que soit bien clair, c'est que dans le bouddhisme, il y a un point de départ moral au mouvement religieux, ce n'est pas simplement de la spiritualité, c'est une spiritualité qui est consciente du mal. Voilà, ça c'est le point de départ d'à peu près l'ensemble du bouddhisme. Oui, vas-y. Des moines qui ? Ah, ils ont donc des forces spirituelles. C'est-à-dire, par exemple, la lévitation, par exemple. Oui, par exemple, dans Tintin au Tibet. Ben oui, il faut avoir ses classiques. Quoi. Et donc il y a des phénomènes spirituels, il y a ce qu'on appelle la science du contact avec le monde spirituel. Et ça, ça se trouve un peu partout dans le monde, pas seulement chez les bouddhistes, ça se trouve dans le monde entier. Il y a un peu partout des êtres d'exception qui savent comment entrer en contact avec le monde spirituel. Chez nous aussi, ça s'appelle les prophètes. Mais avec une petite différence. C'est que chez eux, cette connaissance passe par la connaissance de la technique. Et il n'y a pas, si tu veux, de conséquences morales à cela. Tandis que chez nous, la prophétie passe par une équation morale. Pourquoi cette différence? Parce que chez eux, on ne rencontre pas quelqu'un, on rencontre quelque chose. Tandis que chez nous, on rencontre quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, je dois être agréable à ses yeux. Si moi je veux que tu me parles, il faut que je te mette en condition de vouloir bien me parler. Et tu peux même refuser, même si j'ai été très sympa. Tandis que, si Dieu, dans le monde extrême oriental, c'est un peu comme si on se liait au courant électrique. Si j'ai mis ce qu'il faut, j'ai mis le moteur, j'ai mis la prise, j'ai appuyé sur le bouton, ça va tourner. D'accord? Donc, d'une certaine manière, il est plus facile de prophétiser quand on est goy que quand on est juif. Mais quand on prophétise et qu'on est juif, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Oui, mais dans ces cas-là...
Tu veux te raconter une histoire? Je peux te raconter une petite histoire? Bon. J'ai connu un de mes élèves au Machon Meir qui avait eu des expériences mystiques dans des monastères en Thaïlande. Monastères bouddhistes au Thaïlande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que pour arriver à ce qu'on appelle l'illumination, il faut travailler pendant des années. Ça, c'est si on est bouddhiste local. Mais si on est touriste, alors il faut faire ça vite parce que vous allez bientôt rentrer à l'université, vous commencez votre trimestre, alors vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors on vous fait ça en rapide. Alors, ce qui se passe, c'est comme ça. Pendant 3 semaines, on vit dans la tranquillité du monastère, avec beaucoup de paisibles. Vous êtes paisible. Vous êtes silencieux, agréable, vous mangez végétarien, tout ça. D'accord. Ça, c'est pendant 3 semaines, on se prépare. Et puis, vers la fin des 3 semaines, il y a 3 jours d'isolement. On s'isole et on n'entre pas en contact avec le reste du monde. Et le matin du 3e jour, c'est là qu'il y a la révélation, comme au Mont Sinaï. Et puis, c'est quoi? Eh bien, c'est j'ai interrogé donc mes élèves du Machon Meir qui étaient passés par ça, ils m'ont dit, c'est une sorte de mort momentanée. Alors, j'ai demandé, oui, d'accord, mais une fois qu'on a fini avec ça, quelle est l'aspiration de la vie? Qu'est-ce qui, maintenant, m'accompagne dans mon existence? Ils m'ont répondu, c'est le désir de revenir à cela autant que possible, le plus souvent possible, jusqu'à la disparition totale. C'est-à-dire, c'est une spiritualité qui a pour tropisme la mort. Par contre, si on voit au Mont Sinaï ce qui s'est passé, je prends ici un verset de Vaitranan, dans le livre de Devarim. « Vayehi keshom achem et akol mitoch achosher »« Ce fut lorsque vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, ve'ahar bo'er ba'esh »« et la montagne flambée dans le feu »« Vatikrevu nelai kulchem »« Vous vous approchèrent tous de moi »« Kol rashi shivterem v'shotrechem »« Tous les chefs de vos tribus » Vatomeru Nelai, et vous m'avez dit, Hen eranu Hashem Eloenu et Kevodo et Godlo. Voici que Dieu nous a montré, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Vet Kolo Shamanu Mitoch Haesh, nous avons entendu sa voix du sein du feu. Hayom Aze, ce jour-ci, Rainu, nous avons vu, Ki Yedaber Elohim et Adam Vahai, que Dieu peut parler avec l'homme et que l'homme reste vivant. Ve'ata est présentement lama namut, pourquoi mourir? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pensé auparavant et qu'est-ce qu'ils ont pensé après? Auparavant, ils ont pensé que mourir était une bonne chose parce que le seul moyen d'entrer en contact avec la divinité, c'est de mourir. Et donc la mort était désirable. Mais maintenant que nous avons entendu une parole et que cette parole nous dit qu'on peut vivre, alors la mort ne sert plus à rien. Ou bien quand la Torah nous dit « J'ai donné devant toi la vie et la mort », qu'est-ce que tu vas choisir? Évidemment la mort, parce que c'est ce qui permet d'entrer en contact. Et la Torah nous fait un chidouche, elle dit non, « Vacharta b'chayim, il faut que tu choisisses la vie, leman tichyeh ata vezaracha, afin que tu vives toi et ta descendance sur la terre que Dieu te donne ». C'est-à-dire qu'il y a un optimisme fondamental de la Torah qui est que la vie d'ici-bas est sanctifiable. Et donc il peut avoir une finalité terrestre, même politique, à la vie spirituelle. Tu vois la différence ? Oui. Donc le fait qu'ils ont des forces ne pose aucun problème. Je ne vois pas pourquoi ça t'embête tellement. Nous, ça nous prend 4000 ans pour faire ça.
Voilà.
Bon, mais après 4000 ans, on arrive quand même à faire quelque chose. On n'a jamais vu chez les rabbinim des lévitations. Parce que ça ne sert à rien. Quoi ? Ça ne sert à rien, les lévitations. Qu'est-ce que ça te donne de faire une lévitation ? Vas-y. Tu veux apprendre, t'as qu'à faire. Si tu veux apprendre à faire des lévitations, t'as qu'à les faire. Hein ? Dis-lui que je ne suis pas là. Il est en lévitation.
Comment il pourrait faire ça alors ?
Comment ? Mais pourquoi pas ? Je ne comprends pas. Ce que je suis extrêmement surpris, c'est le fait que ça vous étonne.
Oui, mais c'est normal. Parce que c'est sort de la normale.
Ça sort de l'habituel, c'est vrai. Il y a par exemple en Inde des gens qui savent changer la vitesse de leur vaisseau, de la circulation du sang, par exemple. Des choses de ce genre. Ouais, mais pourquoi ça vous semble tellement... C'est vrai que c'est inhabituel, mais rien de plus. C'est de l'inhabituel. Il y a ici un contact avec des réalités spirituelles extrêmement élevées.
Et alors, en cherchant
hein? Je vais vous raconter une histoire, par exemple. Vous connaissez, vous avez entendu parler du Dalai Lama?
Ouais.
Hein, le Dalai Lama. C'est aujourd'hui le plus populaire des représentants du bouddhisme dans le monde. Et un jour, il a rencontré en France... le Rav Léon Ashkenazi, Manitou. Et il a dit, Rav Ashkenazi, voilà, nous autres, je voudrais vous poser deux questions, monsieur le rabbin, a dit le Dalai Lama, qui lui sert d'ailleurs à entrer en lévitation. D'ailleurs, vous savez qu'il est considéré comme un dieu, le Dalai Lama, bien qu'il ait des lunettes. En tout cas, donc, c'est un dieu à lunettes. Et il demande au rabbin, voilà. D'une part, étant donné que vous autres les juifs, vous revenez de votre exil après plusieurs milliers d'années, et que nous autres les tibétains, nous commençons notre exil depuis que le Tibet a été détruit par les Chinois. Alors, dites-nous, quel est le secret qui fait qu'on peut traverser l'exil ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous autres les juifs, sur... l'être humain, sur l'intériorité de l'âme humaine. Réponse du Rav, grand précieux. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous vous adressez à nous, alors qu'il y a des grands peuples sur Terre, qui ont plusieurs centaines de millions de ressortissants, et alors que nous sommes un peuple tout petit ? Réponse du Dalai Lama. Si vous dites cela, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. T'as compris ?
Ouais.
J'ai d'ailleurs été une fois en contact avec un Français qui avait vécu très longtemps en Chine et qui connaissait sur le bout des doigts la spiritualité chinoise et un peu celle de l'Inde. J'étais avec lui en visite à 4h du matin chez le Rav Getz, Zichrono Livracha. Le Rav Getz était le rabbin du Kotel, également Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes à Jérusalem. Et c'était intéressant parce que le goy en question était là pour expliquer au Rav Getz des fondements de la philosophie chinoise. Et il s'est mis à dessiner sur des feuilles de papier blanc, avec un feutre, des tas de signes en chinois et expliquer ce que ça voulait dire. Le Rav Getz me dit... Cherki, tu vas maintenant traduire. Cherki, c'est moi. Et alors, à chaque fois que le goy dessinait quelque chose en chinois, le Rav Getz sortait un autre livre de Kabbalah et montrait où est-ce que c'était écrit chez nous. Et puis, c'était intéressant. Et puis, après, nous sommes sortis. Il était donc 4h du matin, à peu près 4h30 du matin, sur la place du Kotel. Et le goy me dit, il y a ici une lumière qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Quand je lui dis, vous savez, c'est parce que c'est bientôt l'aube. Il dit, oui, mais regardez là, les collines là-bas au fond, comment c'est organisé. Dit, bah, écoutez, c'est la faille syro-africaine, c'est une faille d'effondrement, etc., géologique. Il dit, oui, mais la manière dont les arbres sont disposés. Je lui dis, oui, mais ça, c'est parce que c'est les cyprès plantés par le Keren Kayemet. Et puis, il me regarde comme si j'étais un imbécile fini, qui ne comprend rien à la spiritualité. D'accord ? Donc, il y a des choses de ce genre. Quand nous sommes dans l'intérieur, nous ne sommes pas toujours à même de comprendre ce qui se passe chez nous. Mais eux, qui sont de l'extérieur, le comprennent très bien. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la moitié des gourous en Inde sont d'origine juive. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui nous met en contact. Quelqu'un m'a témoigné que, par exemple, dans la caste des brahmanes en Inde, vous savez que les brahmanes ne se marient qu'entre eux, ou avec des filles de kohanim juifs. D'accord ? Parce que de caste de prêtrise à prêtrise, ils sont d'accord. D'ailleurs, il y a quand même, c'est dire qu'il y a quelque chose à leur enseigner. Mais non, tu dis... nous ne sommes pas capables d'entrer en lévitation, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il n'y a pas ce genre de phénomène chez nous, ce qu'on appelle Kfitsat Aderech et tout le reste. Nous avons, par exemple, des témoignages de différents kabbalistes qui racontent leur lévitation, quand même.
Aujourd'hui ?
Pas aujourd'hui, bien que j'en ai connu un qui, semble-t-il, en était capable, mais enfin, il n'est plus vivant aujourd'hui. Tu veux absolument entrer en lévitation ?
Non, je veux absolument voir que dans la Torah, il y a aussi des moyens.
Ah oui, mais je vous rappelle qui c'est ta mère.
Oui, mais tu oui.
Pas. T'as pas vu, mais c'est pas grave. Même s'il n'y a pas. En admettant qu'il n'y ait pas, et alors ?
Ça veut dire qu'il y a des forces qu'il n'y a pas chez nous ?
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a des forces qu'il n'y a pas chez nous.
Pas.
Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont données en partage au reste de l'humanité. Par exemple, la Guémara nous dit, à propos des fils de Ketoura. Tu sais qui sont les fils de Ketoura ? Ketoura était la troisième femme d'Abraham. C'est pas, il a épousé Sarah et Agar, et après il a épousé Ketoura. Certains disent que c'est la même. En tout cas, les fils de Ketoura ont fondé des nations. Et la Guémara nous dit... Non, d'abord la Torah dit que Abraham a envoyé ses enfants vers l'Occident, Kedma et l'Eretz Kedem, à l'Orient, du côté du pays de l'Orient. C'est-à-dire qu'il les a envoyés en Extrême-Orient. Il leur a donné des cadeaux, Nathan Abraham, Matanot. Et la Guémara demande, mais quels sont les cadeaux en question ? Et elle répond, Melamed chez Massar Lahem, Shem Tum'a. Cela veut dire qu'il leur a livré les noms de l'impureté. Ça veut dire qu'il leur a donné une science, qu'on appelle les noms de l'impureté, qui se trouve chez eux et pas chez nous. Mais dans ce cas-là, comment se fait-il qu'Abraham, qui est un homme très généreux et qui aime certainement ses enfants, leur donne quelque chose d'impur ? Il leur donne des choses qui sont pures pour eux, mais impures pour nous. Il y a des techniques qui permettent d'entrer en contact avec le spirituel et qui ne sont pas d'ordre moral et donc qui sont disqualifiés pour Israël, mais qui sont possibles pour eux. C'est-à-dire, c'est de même que, par exemple, manger des carottes, c'est très bon pour les lapins. Ce n'est pas forcément très bon, par exemple, pour les chats. D'accord ? C'est-à-dire, il y a des contenus, il y a des alimentations spirituelles qui sont bons pour certains, qui ne sont pas bons pour les autres. Et c'est quoi les noms de l'impureté ? C'est une science qui serait basée sur les noms. Il y a par exemple ce qu'on appelle, dans leur langage, le mantra. As-tu entendu parler du mantra ? Tu sais ce que c'est le mantra ? Non ? Les mantras, ce sont des formules. C'est-à-dire, il y a des formules qui sont la clé de notre être. Alors, si je connais mon mantra... Je sais qui je suis. D'accord ? Et par exemple, il y avait une fois une jeune fille qui était partie au Népal pour savoir son mantra. Et alors le lama qui l'a reçu lui a demandé « Mais de quel peuple tu es ?» Et elle a dit « Moi, je suis du peuple juif. » Elle a dit ben, « Votre mantra, c'est Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad. » Très élevé, plus que les autres. Bon, très intéressé. Elle part et étudie au Machon Meir et fait Teshuvah. D'accord ? C'est-à-dire, il y a cette conscience qu'il y a un contact comme ça. Maintenant, le mantra central de l'enseignement du bouddhisme, c'est Om. Vous entendez parler de ça? Om. D'accord? C'est, d'après le bouddhisme, le son fondamental qui a été à l'origine de l'univers. Om. Dans la Kabbalah, Om, c'est un des 72 noms de Dieu de trois lettres. Il y a 72 noms de trois lettres. Un des 72 noms, c'est Om. D'accord? Mais on en connaît encore 71. Ils n'en connaissent qu'un seul. Qu'est-ce qui signifie origine? Ça vient du le mot M, la mère, c'est la même chose. D'accord? Et donc, on retrouve des contacts de ce genre. Alors, parfois, il y a des branches qui sont plus exploitées chez eux que chez nous, mais ça ne veut pas dire que c'est plus grand. Ça veut dire que c'est plus spécialisé. Imagine, par exemple, quelqu'un qui s'y connaît très fortement en, dans l'art de la broderie. Alors, ça veut dire qu'il est plus fort que les autres? Non, dans la broderie, il s'y connaît. D'accord? Donc, la lévitation qui te fascine tellement, si tu veux, c'est comme une spécialisation dans la broderie. T'as compris? Bon, ça, c'est simplement pour parler un peu de ça. Maintenant, je voudrais quand même vous dire une petite anecdote. Vous voyez bien qu'on ne peut pas, dans le temps très court que nous avons, parler de tout. Mais une petite anecdote intéressante. Vous avez entendu parler du Mahatma Gandhi? Le Mahatma Gandhi. Gandhi, c'est celui qui a... Gandhi, c'est celui qui a libéré l'Inde de la domination britannique. C'était pas simplement un homme politique, c'était un homme spirituel. C'était quelqu'un de très grand, le Gandhi en question, qui a inventé la non-violence comme formule, comme stratégie de lutte, la non-violence, et qui a réussi à libérer l'Inde. C'est pas mal, quand même. Bon. Le Gandhi en question était un homme spirituel qui faisait également des jeûnes. Il jeûnait. Un jour, il a jeûné pendant 3 semaines. 20 jours d'affilée. 20 jours. Après, quand il avait fini son jeûne, il s'est fait interviewer. On lui a demandé, mais enfin, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous jeûnez comme ça? Il dit, j'ai des pensées. Pensez à quoi? Je pense à Dieu. Ah bon? Pas mal.
Il n'y a pas de Dieu.
Non, Gandhi n'était pas un bouddhiste. Gandhi était jaïniste plutôt. Il était hindouiste aussi. D'ailleurs, il pratiquait l'idolâtrie comme tout le monde là-bas. Enfin, bref. Et en tout cas, mais il avait reçu une formation occidentale, donc il formulait sa science hindouiste en termes occidentaux. Comme par exemple Sri Aurobindo. Je vais vous raconter 2 anecdotes. Celle-là et encore une autre. Et un jour, donc, il avait jeûné pendant 20 jours. Et puis, on lui a demandé, alors à quoi vous pensez? Il m'a dit, je pense à Dieu. Ah bon? Et c'est quoi sa pensée à Dieu? Il dit, c'est peut-être simplement une illusion, disait-il. Mais comme le monde entier est peut-être une illusion, alors la pensée de Dieu est l'illusion la plus noble des hommes. Bon, pas mal. On a raconté ça au Rav Kook. Ça se passait du temps du Rav Kook. On a dit, voilà, Gandhi, il a dit ça. Alors, Rav Kook a dit, c'est merveilleux. Alors que Gandhi, qui est injuste parmi les nations, après 20 jours de jeûne, est capable d'arriver au doute. Tandis que les enfants d'Israël jeûnent un jour par an, le jour de Kippour, et ils arrivent à l'évidence. Il y a d'ailleurs un poème que récitent nos frères Ashkenaz à Kippour, « Havadai shemo kenti ilato ». Il est celui qui est certitude, ainsi que sa louange. C'est-à-dire, le juif arrive à la certitude en un jour de jeûne, tandis que l'hindouiste y arrive au doute après 20 jours de jeûne. Ça, c'est la première histoire.
L'hindouiste, dans son fondement, il n'y a pas de Dieu.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. C'est tout à fait différent. Maintenant, bien que dans le Bhagavad Gita, pardon, il y a un peu l'idée de révélation, mais ça, il faudrait développer ça. Maintenant, 2e anecdote qui va vous intéresser. Vous avez entendu parler d'un certain Sri Aurobindo? Sri Aurobindo, non, ça ne vous dit rien? Hein? Tu le connais, Sri Aurobindo? Hein? J'ai rien compris. Ah, j'en ai parlé ici. Je vais raconter cette histoire. Non, mais ça sert à rien que je la raconte. Non, ça sert à rien que je la raconte, parce que si tu es le seul à t'en rappeler, ça veut dire que si je leur parle encore une fois, ils ne vont pas s'en rappeler. Ah, d'accord. Bon. Sri Aurobindo était un hindou qui avait également grandi en Angleterre, comme Gandhi, et qui un jour a fait une sorte de tshuva. Il est revenu à la spiritualité hindoue. Il a écrit beaucoup de livres sur l'hindouisme, et il a fondé également une sorte de monastère, un ashram, dans la ville de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Et il a fondé tout un complexe qu'on appelle Auroville, Aurobindo, la ville d'Aurobindo, l'Auroville. Et il a fait ça en collaboration avec une juive d'origine française, enfin une française d'origine juive, dont j'ai oublié le nom, mais qui se faisait appeler la mère. La mère. D'accord ? M-E, accent grave, R-E. Et dans son monastère, on venait du monde entier. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, ça existe encore. On venait pour apprendre la spiritualité selon Aurobindo. Et puis, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, Aurobindo a dit « La lutte entre les forces de l'Axe et les Alliés, c'est la dernière lutte entre le bien et le mal. » Et puis après, les Alliés ont gagné la guerre. Et alors on a demandé à Aurobindo, mais alors, est-ce que le bien a vaincu le mal? Il a répondu, attendez 1967. Et puis après, il est mort. Il n'est pas arrivé vivant à 67. Mais en 1967, dans son monastère, il y avait un Israélien, officier dans l'armée israélienne, qui était dans le monastère, et puis quand il a entendu qu'il y a eu la guerre des six jours, il a dit, bon, il faut absolument que je rentre en Israël pour faire la guerre. Mais avant de partir, il a demandé la bénédiction de la mère. La mère était encore vivante. Et alors, au moment de partir, elle lui met les mains sur la tête pour le bénir, et alors l'esprit d'Aurobindo est entré en elle, et on a entendu la voix d'Aurobindo à travers sa bouche, qui a dit, tous les peuples mentent, sauf le peuple d'Israël. Shalom.